France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercy. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le Comité consultatif national d'éthique se prononce pour l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires de la procréation médicalement assistée, aujourd'hui réservée aux seuls couples hétérosexuels. Le Conseil maintient toutefois son opposition à la gestation pour autrui et donc au recours aux mères porteuses en France. Précision sur ses avis avec Florence Turme dans un instant. L'ancien écologiste François de Rugy, futur probable président de l'Assemblée nationale, en tout cas il vient d'être choisi par le groupe La République En Marche, pour candidater cet après-midi au perchoir, suivi de Christine Monclin. Manuel Valls quitte le Parti Socialiste pour devenir député apparenté au groupe La République En Marche. Au Sénat, c'est Jean-Pierre Raffarin qui annonce qu'il renonce à son siège pour créer une ONG internationale. Il y a un groupe de sénateurs Macron compatibles qui se constitue également au Sénat, analyse des dernières recompositions en cours avec Stéphane Robert. Les élus France Insoumise, communistes et aussi les syndicats rassemblés ce matin aux Invalides pour lancer la contestation contre le projet de révision du Code du travail. Reportage sur place de Sophie Delpont. À l'étranger, question, la Syrie d'Assad prépare-t-elle une nouvelle attaque chimique? Le porte-parole de la Maison-Blanche affirme que les États-Unis ont bien identifié de potentiels préparatifs d'une autre attaque chimique par le régime donc syrien qui pourrait provoquer le massacre de civils. Explications et conséquences avec Éric Biegala. L'invité de la séquence interview, Nicolas Saugé, professeur associé à Sciences Po, est dans la dernière partie de la grande de table, Olivia Jasbert.
Bah écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, ça tient en quatre lettres. N-O-U-S. Nous, qui sommes-nous? On va partir à la recherche de ce nous manquant avec l'historienne Marielle Masset qui a coordonné ce nouveau numéro de la revue Critique et avec le sociologue François Dubé qui signait il y a quelques temps ce qui nous unit, discrimination, égalité et reconnaissance au seuil. Ils seront avec nous à partir de 12h55.
Emmanuel Macron s'y était déclaré favorable dans un courrier du 16 avril aux associations LGBT. Il indiquait attendre que le Conseil consultatif national d'éthique ait rendu son avis sur la question pour, disait-il, pouvoir construire un consensus le plus large possible. Eh bien, c'est fait, l'avis est rendu. Donc ce matin, comme prévu, le Conseil se déclare favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et aussi pour les couples de femmes. Florence Turme, bonjour.
Bonjour.
Il faut d'abord dire que cet avis a fait débat au sein du comité ce matin.
Oui, effectivement, même si la majorité des membres du comité ne se déclare pas opposés à l'insémination artificielle par donneur, l'IAD, c'est le terme que le comité préfère d'ailleurs utiliser plutôt que procréation médicalement assistée. Ce qui a emporté cet avis, c'est la demande des femmes et la reconnaissance de leur autonomie, la possibilité de pallier une souffrance induite par des orientations personnelles. Cette souffrance, dit le comité, doit être prise en compte car le recours à une technique n'implique pas de violence. Par ailleurs, estime cette même majorité, même si tout désir d'enfant n'a pas vocation à être satisfait, on peut faire confiance au projet des femmes qui souhaitent accéder à la maternité, des projets mûrement réfléchis. Restent donc les réticences de certains membres du comité favorables au maintien du statu quo. Ils posent plusieurs questions que le comité n'entend d'ailleurs pas éluder en proposant un débat de fond sur les conditions d'accès et de faisabilité. Ces questions, c'est d'abord la relation de l'enfant à ses origines. Pour les enfants nés par don de sperme, il n'y aura pas de lignée ni paternelle, ni de référence à la succession des générations de ce côté-ci. Grandir sans père, poursuivre cela, devient une situation inédite pour l'enfant. Ils craignent une institutionnalisation de cette absence paternelle. L'enfant n'aurait que l'image d'un donneur et il est encore trop tôt pour apprécier les conséquences et le devenir des enfants concernés. Autre sujet d'inquiétude, il tient à la gratuité du don de sperme qui se traduit par une rareté des gamètes. Enfin, une question économique, à qui appartient-il de prendre en charge le coût de la technique de PMA? La charge pécuniaire ne saurait porter sur les moyens financiers de l'assurance maladie, estime le comité.
Alors, en attendant une éventuelle réforme, Emmanuel Macron s'y était déclaré favorable, je le rappelle. Tout n'est pas encore forcément réglé sur le plan juridique, en tout cas, Florence.
Mais oui, le principal problème tient au statut actuel du donneur. En France, le don est anonyme, volontaire et gratuit. Et cette question de la gratuité et le manque de donneurs induit des risques de marchandisation du corps humain. Par ailleurs, la loi garantit l'anonymat au donneur, mais cet anonymat vient buter sur la demande logique et sans doute légitime de tout enfant de faire la vérité sur ses origines. À l'heure actuelle, l'accès aux origines biologiques n'est pas autorisé pour les enfants nés par don de sperme. Or, La Convention européenne des droits de l'homme estime que le droit de connaître ses origines relève bien du droit supérieur de l'enfant. L'anonymat absolu prévu donc par le législateur français pourrait bien un jour être remis en cause par le droit européen.
Merci beaucoup Florence Thurm. Après s'y être opposée longtemps, la chancelière conservatrice allemande Angela Merkel a ouvert hier la porte à une autorisation du mariage gay en Allemagne face à une pression politique croissante. On est en période électorale, c'est pour septembre. Je souhaite orienter la discussion dans une direction qui relève de la décision de conscience, dit-elle, plutôt que de vouloir imposer quoi que ce soit. En 2013, elle s'était opposée au mariage pour tous en invoquant ses craintes pour le bien-être des enfants des couples mariés. On passe à la politique française avec l'ouverture cet après-midi à 15h de cette 15e législature de la 5e République. La nouvelle Assemblée va se réunir sous la présidence de son doyen Bernard Brochamp, membre du groupe Les Républicains, 79 ans, assisté des 6 plus jeunes députés, dont le Benjamin Ludovic Pajot, 23 ans, élu sous l'étiquette Front National. Première tâche donc l'élection du président, d'un président de l'Assemblée. Le groupe La République En Marche, fort d'une majorité de 308 députés, a déjà désigné ce matin son candidat. Il s'agit de l'ancien écologiste François de Rugy qui, Christine Monclat, donc devrait être, selon toute vraisemblance, élu au perchoir tout à l'heure.
Oui, c'est en tout cas sa candidature qui sera soumise au vote à 15h au nom du groupe La République En Marche qu'il a désigné ce matin à 153 voix sur 298 suffrages exprimés. Alors François de Rugy, c'est le profil sérieux dans tous les sens du terme. Le député écologiste entame ici son troisième et dernier mandat. Il avait quitté Europe Écologie Les Verts en accusant le parti de dérive gauchiste. Il avait ensuite été le premier des ex-candidats de la primaire de la gauche à soutenir Emmanuel Macron et pas Benoît Hamon pour la présidentielle. Mais s'il coche beaucoup de cases, il ne répond cependant pas à un critère qui était pourtant essentiel aux yeux d'Emmanuel Macron, celui d'installer une femme au perchoir. Alors on voit que la féminisation de l'Assemblée, un peu comme dans les entreprises d'ailleurs, a du mal à passer le cap de la gouvernance, car pour les groupes politiques, il ne devrait y avoir aussi que des hommes à leur tête.
Alors les groupes, parlons-en, les groupes parlementaires qui s'organisent, on en a 7 ou 8 aujourd'hui, hein, c'est un record sous la 5e République. Donc République En Marche, Modem, Les Républicains, Parti Socialiste, France Insoumise, Parti Communiste et le groupe des LR dit constructif, UDI, indépendant. Ça fait beaucoup de groupes, Christine, mais finalement bon, assez peu d'opposants véritables, en tout cas en nombre.
Oui, prenons les termes qu'ils utilisent pour définir leur future action politique. La deuxième force de l'Assemblée, ce seront les Républicains avec une centaine d'élus. Et ils veulent être, eux, dans un accompagnement pragmatique des projets de l'exécutif. Le groupe PS, lui, se dit dans l'opposition, mais pas dans l'obstruction. Et il vient d'ailleurs d'abandonner l'étiquette socialiste pour se renommer le groupe Nouvelle Gauche. Il n'a que 30 députés, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors en revanche, La République En Marche, elle pourra compter sur plus de 80 députés répartis en deux groupes alliés, le Modem et les Républicains, dits constructifs, UDI et indépendants, un segment dissident du parti Les Républicains tout court. Et en attendant de savoir si quelques élus plus à gauche parviendraient eux aussi à terme à former un groupe pro-majorité, on a appris ce matin que Manuel Valls quittait le Parti Socialiste pour siéger comme apparenté La République En Marche. Reste donc la France Insoumise et les communistes, à la gauche de la gauche, qui ont chacun un groupe mais une volonté commune de résistance aux projets gouvernementaux. Et puis une vingtaine de députés non inscrits, les FN, régionalistes ou encore indépendants. Au final, on arrive à 60, 80, peut-être 100 députés prêts à dire régulièrement non au projet de l'exécutif. Donc sur 577 élus, cela fait moins d'un sixième de l'hémicycle que l'on peut effectivement classer dans l'opposition.
Voilà, il y a donc de la marge. Merci beaucoup Christine Monclat. Vous parliez de Manuel Valls qui quitte donc le Parti Socialiste. Écoutez comment il l'annonçait ce matin, c'était sur RTL.
Moi je veux siéger au cœur de cette majorité par cohérence. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti Socialiste ou le Parti Socialiste me quitte. J'ai adhéré il y a 37 ans. J'avais écrit à Bertrand Delanoë, à l'époque qui exerçait les responsabilités au sein du PS, en lui demandant si un jeune étranger, parce que j'étais espagnol à l'époque, pouvait adhérer au Parti Socialiste. Il m'avait dit oui. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, ce qu'est devenu le Parti Socialiste. Maintenant, moi je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la France.
Voilà, Manuel Valls avec Elisabeth Martichoux. Au Sénat, c'est Jean-Pierre Raffarin qui annonce, lui, qu'il renonce à son siège pour créer une ONG internationale. On sait qu'il avait œuvré à la création de ce fameux groupe de députés Les Républicains dit constructif envers Emmanuel Macron. Et un groupe, La République En Marche, devrait aussi voir le jour au Sénat, Stéphane Robert.
Oui, avec environ une trentaine de sénateurs, essentiellement des ex-socialistes, qui ont accepté de changer d'étiquette et de revêtir les couleurs d'En Marche au Sénat. C'est un peu moins que ce qu'espérait la tête de pont d'Emmanuel Macron au sein de la Haute Assemblée, l'ancien ministre PS et actuel sénateur de la Côte d'Or, François Patriat. Ça fait des semaines qu'il y travaille, mais manifestement, les sénateurs se montrent plus rétifs au changement que ce qu'il imaginait. Ceci dit, François Patriat a fixé une fourchette basse et une fourchette haute pour ce nouveau groupe En Marche. La fourchette basse est à 25, ça signifie que c'est sans doute le nombre qu'ils sont à l'heure actuelle, et la fourchette haute à 70. Et ça veut dire que Patriat espère bien recruter plusieurs dizaines d'autres sénateurs dans les semaines à venir, notamment à la faveur de l'été. Car pour le moment, bon nombre de sénateurs ont besoin de l'aide financière de leurs groupes politiques respectifs au Sénat pour faire campagne dans leur circonscription. Ce sera moins le cas à la fin de l'été. Or, si les Républicains et les Socialistes ont prévu d'investir leurs candidats dès le début du mois de juillet, le groupe En Marche, lui, a prévu de le faire seulement à la fin du mois d'août. On pourrait donc se retrouver avec un certain nombre de sénateurs anciennement socialistes ou anciennement UDI investis au bout du compte par En Marche, exactement comme ce qui s'est passé pour les députés avant les législatives. Le but d'En Marche, cette fois, ne serait vraisemblablement pas d'obtenir une majorité au Sénat, ça paraît beaucoup trop compliqué, mais au moins de déstabiliser la droite et de lui enlever son hégémonie. Le symbole de cette opération pourrait être d'empêcher la réélection de Gérard Larcher à la présidence du Sénat. C'est sans doute tout le défi de ceux qui se mettent actuellement en marche en direction du Palais du Luxembourg.
Stéphane Robert, j'ajoute que Nathalie Kosciusko-Morizet annonce qu'elle ne va pas se représenter à la présidence du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. Nous saluons l'invité de la séquence interview, Nicolas Sauger, professeur associé à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Question que vous peut-être posez à vos étudiants dans un galop d'essai à Sciences Po. La voici. La recomposition politique en cours va-t-elle influer sur le fonctionnement des institutions de la Ve République?
Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que le fonctionnement était plutôt confirmé, voire augmenté, accentué encore par rapport aux dynamiques qu'on avait vues à l'œuvre sous la Ve République. On a une présidentialisation qui est encore plus importante que ce qu'on imaginait avant, alors que tout le monde s'était dit pour une présidence plus modeste. On imagine...
Donc c'est plutôt en arrière qu'en marche, alors, sur le plan institutionnel.
C'est en marche en arrière, peut-être. En tout cas, un retour aux sources, d'une certaine manière, de la Ve République. On a un fait majoritaire qui, alors je suis le premier à le reconnaître, n'était pas si facilement prévisible, mais qui est très largement confirmé. Qui aurait pensé, il y a encore un an, qu'un nouveau président qui venait de créer... un nouveau candidat qui venait de créer un parti pourrait avoir une majorité absolue de députés. Personne n'y croyait, en tout cas pas moi, et je ne suis pas le seul. Donc on a vraiment une logique institutionnelle qui est complètement réaffirmée par cette victoire.
Oui, mais quand même un renouvellement. Qu'est-ce que vous faites de la phase renouvellement? On voit cette Assemblée nationale où il y a plus des trois quarts des gens qui n'ont jamais siégé, qui par ailleurs sont des gens qui ne sont pas forcément des politiques traditionnelles.
Tout à fait, mais le renouvellement de ce point de vue-là, c'est peut-être le changement qu'on voit, en tout cas pour l'instant, c'est celui de la continuité du changement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne vote plus les lois, ça fait longtemps qu'elle le vote symboliquement, mais qu'elle ne fait plus la loi, ça fait longtemps qu'elle ne contrôle pas un gouvernement de manière effective. Qu'est-ce qu'elle fait? L'Assemblée nationale est là pour représenter, pour donner à la voix un certain nombre de personnes, et ce renouvellement va peut-être permettre là de renouveler cette fonction pratiquement tribunicienne de l'Assemblée nationale dans le régime de la Ve République, même si, de facto, c'est peut-être le Sénat qui aura l'opposition, ou en tout cas la capacité à exprimer une opposition au gouvernement plus que l'Assemblée.
Nicolas Sauger, merci. On vous retrouve dans quelques minutes pour la séquence interview et on salue aussi l'une des invitées de la dernière partie, Marielle Massé. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on vous sert un verre de jus d'orange. qu'est-ce que vous dites des nouvelles formes que prend la vie politique aujourd'hui?
Que ce mot renouvellement qu'on vient d'entendre, en fait, il est... il tire un fil en nous, où il appelle un désir en nous qui est pas tellement comblé par la transformation des visages ou des représentants à l'Assemblée, mais justement par des...
Pourtant beaucoup de nouveaux quand même, des femmes notamment aussi, on a beaucoup souligné cet aspect.
Certes, dont on a beaucoup moqué la supposée incompétence, dont on s'est beaucoup moqué sur les réseaux sociaux, etc. Mais rien ne dit que le fait de ne pas appartenir à la classe politique ou d'être sans expérience de ce côté-là garantissent des qualités supplémentaires. Mais le renouvellement, il me semble qu'on le voit dans d'autres lieux. Enfin, le peu de lien peut-être qu'on éprouve avec ce qui se passe aujourd'hui au sommet de l'État, le peu de lien, le peu d'intérêt, le fait de ne pas se sentir tout à fait concerné, de ce point de vue, la forte abstention aux législatives, elle n'est peut-être pas il ne s'agit peut-être pas de faire la leçon tout le temps aux électeurs en les rendant coupables de s'être détournés.
Mais alors, c'est où vous voyez ces liens qui refont du nous, puisqu'on va en parler tout à l'heure.
Sur les places, sur ce qui s'est tenté et défait et parfois mal tenté aussi à nuit debout, mais dans d'autres façons de vouloir entrer dans l'arène politique.
Voilà, on reparlera de cette façon de pouvoir faire nous à nouveau, Olivier Lesbert.
Dans une dizaine de minutes, exactement, Antoine Mercier. Pour l'heure, il est midi 46 sur France Culture, et c'est la suite de votre journal, l'un des premiers textes que le nouveau Parlement va devoir examiner, et celui qui habilitera le gouvernement à agir par ordonnance en vue d'alléger le code du travail. La mobilisation des opposants risque d'être assez difficile, car tout devrait être bouclé en septembre.
Et oui, c'est pourquoi les élus France Insoumise et communistes aussi se sont joints ce matin aux syndicalistes pour un rassemblement qui se tient aux Invalides. Nous sommes quelques heures avant l'ouverture de cette session parlementaire, Sophie Delpont. Donc, vous êtes sur place pour France Culture.
Oui, députés communistes et députés insoumis se sont donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui, entourés par une poignée de militants réunis à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et UNEF notamment. Ils ne sont qu'une poignée, certes quelques centaines seulement, mais bien décidés à se faire entendre.
On des macronistes gratis, profitez-en.
André Chassaigne, le président du groupe Parti communiste à l'Assemblée nationale, veut profiter de cet instant symbolique, cette rentrée, pour lancer l'offensive face à la réforme du droit du travail.
C'est travailler la main dans la main avec les insoumis, parce que je crois que nous avons des combats à conduire ensemble. Nous voulons travailler en convergence avec le groupe des insoumis, conduire des réflexions partagées. Et bien entendu, nous ne sommes rien, nous les députés, sans le mouvement social, sans les syndicats que nous allons rejoindre et tous ceux qui se mettent en mouvement aujourd'hui.
Une offensive hautement symbolique, même si elle est timide, pour lancer un front social face donc à ce projet de loi d'habilitation qui sera présenté demain, hein, des ordonnances en Conseil des ministres. L'enjeu sera alors d'articuler l'action à l'Assemblée nationale, le travail entre ces deux groupes parlementaires qui ont décidé de travailler main dans la main, comme disait André Chassaigne. Action dans la rue aussi, en tentant d'éviter d'une part la lassitude des électeurs donc après cette séquence électorale qui a duré, et aussi d'arriver ensuite à faire vivre ce mouvement pour, pourquoi pas, dès la rentrée en septembre, être à l'offensive cette fois face au gouvernement.
Merci beaucoup Sophie Delpont avec Marc Garvenès.
La Syrie d'Assad prépare-t-elle une nouvelle attaque chimique ? Antoine, le porte-parole de la Maison-Blanche affirme que les États-Unis ont identifié de potentiels préparatifs d'une autre attaque chimique qui pourrait provoquer le massacre de civils.
Et oui, les États-Unis qui se déclarent même prêts ce matin à riposter comme ils l'avaient fait, on s'en souvient, après une attaque similaire, c'était début avril. Eric Begala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors d'abord, de quels signes disposeraient aujourd'hui les Américains ?
C'est difficile à dire, la déclaration de la Maison-Blanche tard hier soir est plutôt du genre inhabituel. Elle tient en 5 lignes, sans aucune précision, et nul, à l'heure qu'il est, n'est en mesure de dire publiquement, au moins, si les Américains disposent effectivement de renseignements pouvant laisser penser à l'imminence d'une nouvelle attaque chimique. Un bombardement à l'arme chimique, en effet, nécessite quelques préparatifs. En gros, il faut mélanger les produits, il faut les charger dans des bombes spéciales ou des missiles, sortir les batteries lance-missiles ou fixer ces vecteurs sous les ailes des avions qui iront les larguer. Tout ça ne passe pas forcément inaperçu, et les services de renseignement occidentaux et locaux, notamment israéliens, peuvent effectivement avoir détecté de tels préparatifs, Antoine.
Donc, préparatifs, pourquoi ? Quel est l'objectif du régime syrien à nouveau dans une attaque chimique ?
Là encore, difficile à dire. Un bombardement à l'arme chimique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, militairement parlant. En revanche, sur une zone habitée, cela permet de maximiser le nombre de victimes, bien sûr, et surtout de terroriser les survivants, les poussant à la fuite. Et ça, ce nettoyage des zones aujourd'hui occupées par la rébellion, c'est une stratégie poursuivie par le régime de Damas depuis des mois et par différents moyens. Actuellement, l'essentiel de son action militaire, de l'action militaire de ce régime, est déployé sur la zone et sur la ville de Deraa, dans le sud syrien. C'est peut-être là, sur ce théâtre, que de potentielles attaques chimiques pourraient être en préparation.
Alors, quelle riposte dans le cas où, quel risque aussi ?
Alors, la riposte américaine, elle sera lourde, a prévenu Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, dans son communiqué d'hier soir. Et on pense immédiatement à la volée de missiles de croisière que les Américains pourraient quasi immédiatement envoyer sur n'importe quel objectif en Syrie. Les États-Unis disposent d'un arsenal conséquent, croisant en Méditerranée orientale le groupe aéronaval autour du porte-avions George H.W. Bush, qui comporte deux croiseurs et deux destroyers lance-missiles capables de frapper à très longue distance n'importe où dans le pays. Ce sont des armes du même type, une soixantaine de missiles missile de croisière qui avait frappé la base syrienne d'Al-Shayrat en avril dernier après le bombardement chimique de Khan Sheikhoun. Quant aux risques inhérents à une telle riposte, ce sont bien sûr ceux d'une escalade militaire. Ce haussement de ton américain intervient dans un contexte de plus en plus tendu. Les Américains ont abattu un chasseur-bombardier syrien et deux drones de combat iraniens ces dernières semaines au-dessus de la Syrie. Et la Russie a averti qu'elle pourrait dorénavant prendre pour cible les avions de la coalition internationale. A priori, les États-Unis ne sont pas en guerre contre le régime, contre l'Iran ou la Russie. Ils combattent Daesh en Syrie, mais les choses pourraient changer assez vite. Peut-être même, pourrait-on dire, déraper assez vite.
Merci beaucoup Eric Biegala. Réaction de Moscou ce matin également. Nous considérons comme inacceptable de telles menaces contre le gouvernement syrien. C'est ce que déclare le porte-parole du Kremlin, qui ajoute ne pas connaître les raisons ou les preuves qui pouvaient motiver les accusations de Washington. 12h51, on revient à la séquence interview avec Nicolas Sauger, professeur donc associé à Sciences Po. On va continuer de parler de ce nouveau régime, la manière dont se met en place le fonctionnement des institutions avec les derniers événements politiques et le bouleversement de la vie politique. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'intervention potentielle, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas lundi, devant le Congrès du président de la République, à la veille de l'intervention de politique générale, du discours de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée, cette fois mardi prochain?
C'est évidemment avant tout une question de symbole. On sait que Emmanuel Macron tire quelque part la légitimité de l'ensemble de sa majorité parlementaire et gouvernementale, et qu'elle est organisée autour de ces personnes. Sans Emmanuel Macron, aujourd'hui, En Marche n'existe pas et n'existerait pas. On ne sait pas exactement pourquoi elle agirait, dans quelle direction. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'Emmanuel Macron tient à réaffirmer cette prééminence sans forcément vouloir intervenir directement. Comme il le dit lui-même, il souhaite fixer les lignes, mais pas forcément entrer dans les détails. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut bien voir que le grand défi aujourd'hui pour Emmanuel Macron à très court terme, c'est de pouvoir en fait inventer son opposition. Ce qu'on disait tout à l'heure dans le journal, c'est qu'il n'y a pas d'opposition structurée aujourd'hui en France. Il y a des oppositions très fragmentées.
Inventer son opposition, ça signifie quoi?
Ça veut dire quelles sont les grandes lignes de clivage et sur quoi on va débattre dans les prochains temps, dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Est-ce précisément, que ça va c'est être... le clivage c'est qui est refusé par définition, avec l'esprit de dire on peut être comme ci et comme ça en même temps. Ni gauche ni droite.
Oui et non, mais justement, c'est plutôt le déplacement de ce clivage que tente et que a tenté Emmanuel Macron dans cette élection, d'un clivage entre Républicains et Front National principalement. Et c'était le pari réussi de l'élection présidentielle, qui ne s'est pas complètement traduit au moment des élections législatives, mais c'est exactement ce type de questionnement-là que doit ou que peut imposer Emmanuel Macron, faute de structuration du camp d'en face. Et pourtant, Emmanuel Macron, il a besoin d'une opposition.
Pourquoi ça serait nécessaire?
Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on évite que le pays s'enflamme ou que la rue prenne le pas ou la parole plutôt que de limiter et de condenser le débat politique.
Vous ne croyez pas un nouveau logiciel, peut-être post-démocratique, je ne sais pas, où on n'aurait plus besoin de droite, de gauche et qu'une assemblée finalement de personnes responsables, transparentes, qui feraient la politique avec des choix d'experts, etc.
Ce qu'on voit, alors l'expertise n'a jamais eu très bonne presse, ni en France ni d'ailleurs en Europe. Quelque part, c'était un petit peu le modèle qui avait été mis en place au niveau de l'Union européenne, ça, une assemblée délibérante, représentative, mais qui n'est pas très transparente. Tous les documents de l'Assemblée européenne ou du Parlement européen sont à disposition, mais les gens ne les regardent pas. Donc la transparence a évidemment les limites, c'est qu'il faut un public pour ça, et pour avoir un public, en fait, il faut une politisation, il faut d'une certaine manière simplifier les termes du débat, donner quelques enjeux phares pour comprendre quels sont les choix à faire, finalement.
Vous parlez du Parlement européen. Est-ce que justement le Parlement français pourrait être un contre-pouvoir? On voit bien les limites du pouvoir du Parlement européen par rapport à la Commission. Parce que là, on va être un peu dans la même configuration.
Je crois que au niveau européen, c'est pas du tout la logique d'un contre-pouvoir d'un Parlement national contre le Parlement européen. On sait que chacun des pays pris isolément, même si c'est la France, même si c'est l'Allemagne dans une certaine mesure, ne peut pas s'opposer, ne peut pas dicter un certain nombre de coalitions. Il y a fondamentalement la question est de créer des coalitions, de créer des majorités au niveau européen pour porter un certain nombre de pratiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit qui a été fait par le passé et qui devra être fait par le futur. Mais le Parlement français ne peut pas avoir comme vocation d'être la voix de la France au niveau européen. Ça, c'est quelque part, c'était la vision des années 70. Et là non plus, il y a eu guerre d'adhésion à cette vision-là.
Comment vous voyez évoluer maintenant la situation à la rentrée? Est-ce que vous pensez que le macronisme peut perdurer comme ça de manière un peu surplombante? dans la vie politique.
Alors, il va évidemment s'incarner dans un certain nombre de décisions concrètes, pratiques, et on va voir comment se nouent ces oppositions. Finalement, s'il y a une opposition politique ou s'il y a une opposition plus, on pourrait dire, sociale qui se met en place, et ça va être un petit peu les paris décisifs et les décisions décisives qui vont se prendre dans les premières semaines de la rentrée. Et ensuite, on va voir si un camp, finalement, est-ce que la droite, est-ce que la gauche, est-ce que le Front National, est-ce que d'autres encore vont réussir à s'imposer comme l'interlocuteur en opposition à Emmanuel Macron, ou est-ce qu'on va retrouver ce paysage relativement illisible et non structuré encore longtemps? Je ne pense pas.
Nicolas Sauger, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour la météo, il y a 13 départements du Sud-Ouest qui ont été placés en alerte orange pour orage. L'Aveyron, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot et Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Durée de l'événement donc prévue de 16h tout à l'heure jusqu'à minuit. Ailleurs, ça sera un ciel le plus souvent couvert, sauf sur le Sud-Est. Mais les orages vont arriver également sur cette région en soirée. Des températures en légère baisse, 18 à 33 degrés du Nord au Sud. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Marie-Pierre Véraud.